Pense à eux, les autres qui sont malades, santé de nos frères et sœurs. Comme j'ai dit, quand il y en a un qui fait mal, tout fait mal. Tout fait mal. Alléluia. Cette semaine, je priais, toutes les semaines, je prie pour vous autres. Hein? Je prie pour vous autres, je suis ici tout seul. Il y a des pistes qui sont faites. Et cette semaine, bien sûr, avec tous les besoins qu'il y a, ça, c'est rien à faire avec ma prédication du tout, c'est le Seigneur qui me mettait ça à cœur. Beaucoup de besoins dans l'Église, beaucoup de besoins qu'on connaît, que vous ne connaissez pas. On a beaucoup de besoins, on a beaucoup de besoins de prière. Et toute la semaine, quand on priait, quand je priais, il y avait un mot qui venait à cœur. Puis ça me venait en anglais, parce que des fois, moi aussi, je suis un peu comme Robert, je me fiche. Mais ce mot-là me menait en anglais, et c'était « abide », « demeurer », « abide », « demeurer ». La vie nous apporte des drôles de choses des fois, hein, des choses qu'on ne s'attend pas, des opérations qu'on aimerait mieux de ne pas avoir, des maladies qu'on aimerait mieux de ne pas avoir, des décès des personnes proches que ça vient. Qu'est-ce qui. En anglais, on dit la vie nous apporte des curveballs, hein? Nous apporte des problèmes, des fois, des choses qui sont difficiles à passer en travers. Difficile que même. Puis je m'ai vu là. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, tu dis comment est-ce que ça se fait que le Seigneur fait ça? Je ne sais pas si je suis passé spirituel, moi, là. Ben, comment ça se fait que ça arrive, ça? Le Seigneur n'est pas là, là. Il y a quelque chose de wrong, il y a quelque chose. Ça vous a-t-il arrivé, hein, que parfois on a des questions? Mais le Seigneur me disait cette semaine, demeurez. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Demeurez dans mon amour comme je demeure en vous. Amen. Demeurez en moi. S'il y a quelque chose que... Anyway, c'est pour tout le monde. Bien sûr, on priait pour... Priez pour la famille Pitt. S'il y a quelque chose qu'on peut vous laisser, que je peux vous laisser, abide. Gardez, restons proches du Seigneur dans ces temps-ci. Quoi que ce soit qui passe, puis vous voyez bien que le monde, ça va pas bien. Quoi que ce soit l'économie, que ce soit quoi que les écoles, que ce soit. Frères et sœurs, demeurez. Abide. Abide in him. Abide in him. Demeurez en lui. Restez dans son amour. Il nous aime. Il nous aime. He's in control. Amen. Il tient le monde dans le creux de sa main. Il nous aime. So, si le Seigneur va vous donner un mot ce matin, c'est demeurer. Abide. Amen. Alléluia. Ça, c'était pas mon message en tout. Une autre bénédiction qui vous vient. Ouh, glory. Amen. Alors, comme vous savez, bien sûr, on a mis sur le bulletin la semaine prochaine. On va en vacances, moi et Claudette, pour une couple de semaines. Ce mot-là, ça fait tout le temps du bien un petit peu, hein, parce qu'on attend vacances. On a hâte d'un petit brin de R&R, relaxing, rest, repos, relax, plaisir. C'est ça qu'on veut avoir pour deux semaines. On a besoin de prendre du temps, puis ce mot-là, bien sûr, on aime sur ça. Mais lorsqu'on se lève le matin de la première journée de nos vacances, si qu'on va quelque part, peu importe où vous allez, vous faites mieux d'être prête, n'est-ce pas? Vous faites mieux d'être prête. Vous allez pour un voyage, vous faites mieux d'être prête pour aller pour le voyage. Si vous allez avec l'avion, vous faites mieux d'avoir vos billets d'avion. Si vous allez en auto, vous faites mieux de mettre de la gaz dans l'auto, mettre de l'essence dans l'auto, n'est-ce pas? Si vous avez une carte ou un GPS pour savoir le chemin, vous faites mieux de savoir la route que vous prenez pour arriver à votre destination afin que vous arriviez à la bonne destination. N'est-ce pas? Amen. On est là, là? Ah bien. So, la première question que vous devriez vous demander quand vous allez en vacances, c'est où est-ce qu'on va? Où allez-vous? C'est la question que je vous demande ce matin. Où allez-vous? Où allez-vous? Cette question devrait nous faire réaliser que nous ferions mieux de savoir qu'est-ce que la route qu'on prend pour se rendre à la bonne destination. On a eu de la visite hier, une personne, que, un ami que je n'avais pas vu, ça faisait longtemps qu'on venait nous visiter, et on a discuté ça un peu. You know, la route jusqu'on va, la destination jusqu'on va est importante. Est important. Alors, comme j'ai dit, sois sûr que vous avez vos billets. Prenez pas la mauvaise avion, prenez la bonne avion, parce que j'ai entendu des histoires des fois qu'il y a quelqu'un qui pensait que c'était la bonne avion, puis à Lyon, à Floride, puis l'avion à Chicago. Faites sûr que vous avez la bonne avion. Amen. Soyez sûr que vous avez le bon chemin. Le bon chemin pour vous rendre à votre destination. La semaine passée, on a commencé nos études bibliques, comme vous savez, et le sujet de notre étude biblique pour commencer était le salut. Le salut. La semaine prochaine, cette semaine, le sujet est l'assurance du salut. Alors, j'ai pensé que ça serait bon d'apporter un petit message ce matin à propos du salut. À propos du salut, l'assurance du salut. Et on a des bonnes discussions les mercredis soirs. Soyez sûr que vous venez vous joindre. Alors, j'ai intitulé mon message « Le chemin du salut ». Le chemin du salut. Votre destination, le chemin du salut. Romains 10, 9 et 11 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ta présence ici ce matin. Merci, Seigneur, pour ta guérison. Merci pour ton esprit qui agit. Seigneur, merci. Je prie, Seigneur Jésus, encore ce matin, Seigneur, à travers cette simple prédication, Seigneur Jésus, que tu ailles toucher les cœurs qui n'ont besoin d'entendre. D'une manière spéciale, en ton nom. Amen. Un verset qui donne dans la parole qui dit la prédication est une folie, vraiment. Hein. Prédication, c'est juste des mots, mais le Saint-Esprit à travers nos prédications, c'est lui qui touche, c'est lui qui guérit. Alléluia. So, je suppose qu'il y a un Dieu. Je suppose qu'il y a un Dieu. Je suppose qu'il y a un ciel. Je suppose. Toute personne qui est dans sa pleine tête ou qui est saine d'esprit, qui comprend, qui est simple, voudrait s'assurer, bien sûr, que le chemin appelé la vie, le chemin qu'appelait la vie, nous apporte à la bonne place, à la bonne destination. De passer de l'éternité avec le Seigneur dans le ciel, bien sûr. Au mariage de Terry et Cécile, je leur ai parlé un petit peu à propos du chemin du salut. Et je leur ai même donné un compas pour se rendre au bon chemin. Et on a aussi des cartes, des cartes de la bonne route. S'il y a quelqu'un qui venait de la voir, venez me voir après, je vous la donnerai. Voici la carte de la route. La bonne route. La bonne destination. Amen. On a besoin de savoir où est-ce que notre chemin de la vie s'en va. Très important, très important. Nous pourrions dire que premièrement, dans ce chemin-là, il y a parfois des barrages. Il y a des barrages dans chaque chemin, sur la route. Et un de ces barrages-là, ça s'appelle le péché. Vous connaissez? Ouais, moi, je le connais. Le péché. Le péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous, for all have sinned and fallen short of the glory of God. Tous ont péché. D'une manière ou d'une autre, cet obstacle-là de péché, ce barrage-là, doit être enlevé ou être surmonté. Sinon, on ne va jamais arriver à notre bonne destination. On ne va pas arriver à la bonne destination. Encore, Romains 6, 23. Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Not a good way. n'était pas une bonne destination. Une autre chose qu'il y a parfois dans la route, c'est des détours. On a toutes sortes de détours. On en a parlé un peu mercredi soir. Il y a des détours que les gens essayent de prendre pour se rendre à la bonne destination. Et une de ces routes-là, c'est la religion peut-être. Bonne religion. On est dans une bonne religion, on va se rendre à la bonne destination. Ou bien donc, c'est qu'on fait des bonnes œuvres. Moi, je suis un bon gars, moi, un bon Acadien. Je n'ai jamais tué personne. Je vais prendre ce détour-là, moi, je suis pensé. Ou bien donc, on fait le mieux qu'on peut. Tous ces détours-là que personne ne fait sur la route ne conduisent pas à la bonne destination. Vous n'allez pas vous rendre à la bonne destination. La chose à réaliser, c'est qu'il y a un chemin qui nous apporte autour de tous ces obstacles et autour de tous ces détours. Je suis sûr que la plupart de vous sachez ce que c'est. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous a montré combien il nous aimait en envoyant Jésus-Christ faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, en nous donnant un moyen de parcourir, de contourner ces obstacles, de nous tenir sur la bonne direction. Romains 5, 8 nous dit, « Mais Dieu démontre son amour envers nous, en ce sens que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Merci Seigneur qui est venu nous chercher. Merci Seigneur qui est mort pour moi, même avant que je le connaisse. Encore des discussions qu'on a eues. On fait toutes sortes de choses, parfois parce qu'on ne connaît pas le Seigneur, pour s'éloigner de lui. Parfois on ne sait pas, parfois on le sait. Mais le Seigneur cogne à notre porte. Toujours, toujours dans notre vie. J'ai accepté le Seigneur je pense c'était 32, 34 ans, quelque chose. Mais avant ça, le Seigneur cogne à ma porte. Mais je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas assez bien. Je ne l'attendais pas assez bien ou j'étais trop occupé pour l'entendre. Maintenant, avant d'arriver à la destination elle-même, il y a une dernière, peut-être une brique encore dans le chemin que nous devons enlever, que nous devons enlever pour avoir une sécurité de finir à la bonne destination. C'est décrit de cette façon dans Romains 19 qu'on a vu à l'œuvre, que si vous confessez de votre bouche Jésus comme Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Final destination. Sauvé. Destination finale. Sauvé. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La brique est que faut qu'on confesse le Seigneur. Jésus comme Seigneur. Faut qu'on confesse Jésus comme Seigneur. Quand j'utilise ce mot, c'est nécessairement... Les mots ont... La définition des mots ont changé avec le temps. Hein? La définition des mots avec la nouvelle technologie aujourd'hui, ça change. La technologie de nos jours a changé beaucoup de mots. Si on s'arrête à une personne sur la rue aujourd'hui et on lui demande qu'est-ce que c'est des fenêtres ou Windows, qu'est-ce qu'est Windows, il y en a beaucoup de gens qui diront c'est un programme d'ordinateur. Windows, hein? Il y a un Windows ordinateur. Ça a changé, c'est plus des vitres claires. Avant, ça signifiait le mot aide, help, aide. Avant, ça signifiait quelqu'un qui demande pour l'aide pour quelqu'un en difficulté ou quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est encore sur notre ordinateur. C'est en bas, les petites affaires qui sont en bas, ça met help, là. C'est ça que je use tous les semaines. Help, help. Amen. Il y a un gars qui avait dit, dis-moi, des ordinateurs, je ne connais pas son tout. Il dit, mon garçon m'en a acheté un, puis il dit, j'essayais de travailler dessus, puis j'ai travaillé dessus trois soirées, il était 11h, il dit, j'essayais de faire des affaires, puis il dit, à 11h, il dit, l'ordinateur a dit, va te coucher, je peux faire le reste, moi. Les mots ont changé, la signification a changé. Un autre exemple est le mot sauvé. Sauvé, saved. Encore dans l'ordinateur. Saved. On sauve les données qu'on a mis, les fichiers qu'on a mis. Saved, sauvé. Le mot sauvé ne signifie pas tout simplement ce que ça signifiait avant. Mais je veux vous donner des merveilleuses nouvelles. La destination du salut de Dieu, final destination, la destination du salut de Dieu est facilement accessible est également disponible pour tous. Pour tous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. La destination du salut de Dieu est facilement accessible et également disponible pour tous. Vous allez voir que l'une des raisons pour lesquelles tant de gens n'arrivent jamais à la destination finale que Dieu attend pour eux, c'est que c'est trop simple. Ils veulent faire des choses. Ils veulent faire des bonnes œuvres. Ils veulent faire aller, pensent qu'aller à l'église, ça va faire, faut faire quelque chose. Non, c'est si facile. C'est si facile que la plupart, beaucoup de monde, ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Alors, afin d'arriver à la destination finale, appelée le ciel ou avec le Seigneur, une relation permanente avec Dieu, premièrement, vous devez confesser que Jésus est Seigneur. Confessez que Jésus est Seigneur. Encore la première partie du verset que nous avons lu. Que si vous confessez de votre bouche Jésus comme Seigneur. Un peu de grammaire. Vous aimez la grammaire? Un peu de grammaire. Dans cette phrase-là, il y a un nom qui a un verbe. C'est quoi le nom? Ah, il y a même des professeurs ici depuis 100 fois. Le nom? Le verbe est confesser. Le verbe est confesser. Le nom est Seigneur. C'est vrai? Hein? C'est vrai. Le verbe est confesser et le nom est Seigneur. Le mot confesser est un mot qui signifie vraiment dire la même chose que. Dire la même chose que ou être d'accord avec. Être d'accord avec. Dire la même chose que. Il ne s'agit pas de dire seulement quelque chose. C'est l'accepter comme vrai et vivre comme vrai. L'accepter et le dire et le vivre comme vrai. Il y a une différence entre dire quelque chose et le croire. On peut dire, Seigneur, Jésus est Seigneur, et on ne croit pas. Mais il y a une différence entre dire et le croire vraiment. Confesser vraiment que quelque chose, en termes bibliques, signifie que vous n'êtes pas seulement prêt à vivre pour ça, mais vous êtes prêt à mourir pour ça. C'est vrai dans votre cœur. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans 1 Corinthiens 12, 13, le Seigneur a dit aux apôtres, « Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas de l'Esprit. » Vous vous souvenez? Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas du Saint-Esprit. N'importe qui, bien sûr, peut dire Jésus est Seigneur. Mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu que vous pouvez le dire vraiment et le croire vraiment. Par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est quoi ce qu'on dit? On dit Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Pas sauveur seulement, mais Seigneur. Pas mon chum, pas mon ami, pas mon frère, mais premièrement, Jésus est Seigneur. Seigneur. Notre boss. Notre dit que tu drives un car, c'est lui qui drive. Moi, je dis passenger. C'est lui qui est le patron. On a chanté, sois le seul maître de ma vie, le seul Seigneur de ma vie. Avoir une vraie relation avec Jésus-Christ, ce n'est pas seulement en tant que sauveur, mais comme Seigneur. Jésus est appelé sauveur 10 fois dans le Nouveau Testament. Il est appelé Seigneur 700 fois. Seigneur. Laissez-moi vous dire pourquoi. Jésus comme Seigneur. Ces trois mots-là sont puissants. Il faut qu'ils entrent dans nos cœurs. Les tout premiers chrétiens, c'est là qu'ils ont tracé la ligne avec le restant de leur culture, les premiers chrétiens. Ils ont vécu et beaucoup d'entre eux sont morts à cause de ça. Parce que tout le monde dans l'Empire romain a été forcé d'avouer que César était Seigneur. Vous vous rappelez? Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils disent « César est Seigneur ». Mais les chrétiens ont dit « Non, moi je dis Jésus est Seigneur, pas César est Seigneur ». Et pour ça, beaucoup d'eux sont morts, pour le dire. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il y a une version de l'Ancien Testament qui a été traduite en grec, parce qu'il y avait des Grecs dans le temps, la langue était commune à l'époque. Alors, cette traduction est connue comme la traduction Septante. Vous l'avez déjà entendu, Septante? La traduction Septante. Et le mot grec pour Seigneur était le mot qui était utilisé pour traduire le nom hébreu de Dieu, pour Dieu. On connaît nous autres comme Jéhovah. Ils disaient Jéhovah ou Yahweh. Yahweh. Il était utilisé de cette façon plus que 6000 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, au lieu de lire Yahweh, nous autres, on dit Seigneur. Jésus comme Seigneur. Seigneur de notre vie. Confesser Jésus comme Seigneur à la mentalité juive, c'était confesser Jésus comme Dieu. Comme Dieu. Parce qu'ils sont un et le même. Pour beaucoup de Juifs, ça c'était un blasphème, bien sûr. Si tu n'étais pas Dieu, tu ne peux pas dire que tu es Dieu, ou tu connais Dieu. Ou... C'est pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas simplement confesser Christ comme Seigneur avec leurs lèvres. Ils devaient le confesser avec leur cœur. On doit le faire dans notre vie aussi. Seigneur de notre vie. Le mot Seigneur n'est pas seulement un nom, c'est un titre. Un titre. Si Jésus-Christ est Dieu, il mérite que notre obéissance absolue et complète, n'est-ce pas? Si qu'il est le Seigneur de notre vie, il devrait avoir notre obéissance. C'est pourquoi ce qu'il a dit aux disciples, « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis? » Tu peux bien dire le Seigneur, mais si tu ne fais pas ce qu'il dit de faire, si tu ne l'écoutes pas. Alléluia. Quand vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur, vous lui donnez le total contrôle. I surrender. Les polices t'arrêtent, I surrender. Le total contrôle. C'est pourquoi confesser Jésus comme Seigneur n'est pas seulement avec des paroles, mais c'est avec des actions. Avec des actions. Quand vous prenez un jour de la semaine et vous venez à la maison du Seigneur et vous êtes en communion avec le peuple de Dieu et vous adorez le Seigneur, vous confessez que le Seigneur, le Jésus, est le Seigneur de votre calendrier. Amen. Fois par semaine au moins, vous venez ensemble, louez le Seigneur. Lorsque vous prenez la dixième de vos dollars, de chaque pièce que vous faites, que vous apportez au Seigneur vos dîmes, vous donnez des offrandes, vous confessez que Jésus est le Seigneur de vos finances. I surrender. Un mariage, vous connaissez un mariage. Un mariage n'est pas seulement une cérémonie où deux personnes se marient, puis après ils s'en vont, puis ils vivent la manière qu'ils vivaient avant. Avec une vie célibataire et la manière qu'il vivait. Non. Lorsqu'on se marie, tout change. Tout change. Vous appartenez complètement à la personne en qui vous avez marié. Vous appartenez l'un à l'autre. Vous vous donnez complètement à cette personne. Vous vous donnez complètement. Vous lui donnez votre vie. Vous allez maintenant être ensemble. La même chose avec le Seigneur. Lorsque nous confessons Jésus comme Seigneur, nous lui appartenons complètement. Complètement. Alors, premièrement, confesser Jésus comme Seigneur. Deuxièmement, confirmer la résurrection de Jésus. Confirmer. La deuxième partie de ce verset dans Romains 9, 19 nous dit « Et croyez dans votre cœur que Jésus l'a ressuscité des morts. » C'est drôle qu'il n'y a pas dit « Croyez dans votre tête. » que Jésus l'a ressuscité des morts, ou bien donc juste croyez que Jésus l'a ressuscité des morts. Mais ça dit, croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité. Encore un peu de grammaire. Les deux mots clés ici sont un nom et un verbe. Le nom, c'est cœur, et le verbe, c'est élever. Alors, que devrions-nous croire? Nous devons croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il y a beaucoup de choses qu'on a à propos de Jésus qu'on a besoin de croire. On doit croire que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. On doit croire que nous devons croire dans la Vierge qui est née d'une Vierge. Nous devons croire qu'elle a vécu une vie sans péché. Mais honnêtement, peu importe ce que vous croyez au sujet de Jésus, si vous ne croyez pas à la résurrection, vous allez avoir un problème sur la route. Il va y avoir des barrages. Va avoir des barrages sur votre route. Pourquoi est-ce que c'est si important de croire ça à propos de Jésus? La résurrection nous prouve beaucoup de choses. Si un homme a vraiment été ressuscité des morts, ça prouve qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Seulement Dieu qui peut faire ça. Ça prouve que Jésus a dit la vérité et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. He's real. C'est vraiment lui le Fils de Dieu. Ce que ça prouve avant tous, pour vous et moi, c'est que Jésus est le Sauveur du monde et que nos péchés ont été pardonnés par la résurrection. C'est vrai. C'est vrai qu'il a ressuscité. Plusieurs fois, Jésus nous dit qu'il mourait pour les péchés du monde. Dieu a-t-il accepté sa mort comme paiement de nos péchés? La résurrection est la preuve. La résurrection est la preuve. C'est le oui de Dieu que le paiement de Jésus a été fait pour nos péchés et a été pleinement accepté. C'est comme que Jésus, sur la croix, a écrit un chèque pour le paiement de nos péchés et lorsqu'il a ressuscité, il l'a donné à Dieu et Dieu a marqué dessus « paid in full », payé totalement. Amen. Peut-être que vous croyez ça, mais où le croyez-vous? Est-ce que vous le croyez dans votre tête ou est-ce que vous le croyez dans votre cœur? La vraie croyance n'est pas de la tête. La vraie croyance est dans le cœur. Vous pouvez croire dans votre tête que tout ce que vous voulez croire au sujet de Jésus, mais ça ne changera jamais votre vie et votre vie ne changera jamais jusqu'à ce que vous le croyiez dans votre cœur. On peut le croire et ça ne va rien changer, mais lorsqu'on le croit du cœur, ça change tout. Ça change tout. Alléluia. C'est pourquoi ce que Dieu fait toujours appel, non principalement à l'esprit de l'homme, mais aussi au cœur de l'homme. Il parle souvent du cœur de l'homme. Où est votre cœur? Alléluia. Ça nous apporte une question, une autre question. Comment savez-vous que vous croyez du cœur? Ça revient à votre confession de Jésus comme Seigneur. Si vous croyez vraiment dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus dans les morts, alors vous allez vivre vraiment une vie abondante à Christ comme le Seigneur de votre vie. Si vous le croyez vraiment, vous vivrez vraiment pour lui. Les deux vont pair à pair. Alors, confessez Jésus comme Seigneur, confirmez la résurrection de Jésus et en terminant, réclamez le salut de Jésus. Receive. Receive. Une fois que vous recevez Jésus comme Seigneur et que vous croyez en sa résurrection, voici le résultat. Que si vous confessez de votre bouche Jésus comme Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, thank you. Vous serez sauvés. Alléluia. Final destination. Vous serez sauvés. Merci Seigneur. Vous avez arrivé. C'est la seule destination que n'importe qui ou n'importe où peut vous garantir que vous y arriverez. C'est le seul chemin qui vous apportera à votre destination. Bonne destination. Autre chemin va vous perdre. Vous allez vous perdre. Comme que j'avais éteint mon GPS. Je m'ai perdu pour 3 heures, je crois. Si on éteint le GPS, qu'on suit un autre chemin, on ne va pas se rendre. C'est le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule destination. Je ne peux pas vous garantir que vous allez rentrer chez vous en sécurité aujourd'hui. Je ne peux pas vous le garantir. Je ne peux pas vous garantir que vous allez atteindre tous les objectifs que vous avez de fixer dans votre vie. Mais Dieu lui-même nous dit, si vous acceptez le Seigneur dans votre cœur et vous le confessez comme Seigneur, vous serez sauvés. Merci Seigneur. Alors si ce que j'ai à dire est vrai, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne sont pas sauvés? On en a parlé encore mercredi soir, des bonnes discussions. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Mais je vais vous dire la principale raison que je pense pour laquelle les gens ne sont pas sauvés. Ils ne pensent pas qu'ils devraient. Ce n'est pas important. Une autre fois, ils retardent. Ou jubancés, comme on a dit. Ça nous apporte encore aux parties de la route que nous avons discutées. Soit qu'ils pensent qu'il y a un barrage qui est appelé péché et qu'ils peuvent les surmonter, ou qu'ils peuvent faire leur propre détour et ça va leur amener à la bonne place, soit qu'ils pensent qu'il y a d'autres chemins qu'ils peuvent faire, soit qu'ils pensent quoi que ce soit. Ce dernier verset que nous regardons aujourd'hui nous rappelle que même si Jésus a fait tout ce qu'il est nécessaire pour que nous arrivions à notre destination, nous devons prendre ce chemin. Nous devons prendre ce chemin. C'est à nous à prendre le chemin. Nous devons accepter que le chemin que Jésus nous a donné. On n'arrivera pas à notre destination par accident. La seule affaire qui va arriver par accident, c'est ces barrages-là et ces détours-là. Ça va arriver. Mais on n'arrivera pas à notre destination finale par accident. J'aimerais terminer ce matin avec un petit mot à ceux qui, peut-être, sont incroyants, qui ne croient pas. On est tous nés avec cet obstacle. On l'a lu. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Un obstacle dans votre vie qui s'éloigne, qui vous éloigne de Dieu. Cet obstacle est trop élevé que vous puissiez la surmonter. Elle est trop large pour que vous puissiez la contourner. Et elle est trop profonde que vous puissiez la traverser. Tout détour que vous essayez de faire ne finira que par la mort. Il y a un seul chemin, appelé la croix. Jésus, le chemin et la vie, qui vous amènera en toute sécurité avec une relation avec Dieu, dans cette vie et dans la vie à venir. Un autre mot, dernier mot, pour les croyants. Un dernier mot pour ceux d'entre nous qui suivent ce chemin, que nous sommes sur la route et sur notre destination, la bonne destination. Nous devons partager ce chemin avec ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre mandat. Nous devons partager le chemin qu'on connaît avec les incroyants afin qu'eux, ils puissent arriver à la bonne destination. Si on veut changer notre culture, on doit changer les gens de notre culture. Alors c'est à nous à inviter, c'est à nous à parler, c'est à nous à leur montrer le bon chemin. Alléluia. J'aimerais inviter José à revenir. J'avais dit, ça va être un court message, j'aimerais qu'on pourrait passer du temps à l'hôtel ce matin. Si vous avez besoin de la prière, s'il vous plaît, amenez en avant. Si vous avez besoin de la bonne route, que vous preniez la bonne route, s'il vous plaît, amenez en avant, on priera pour vous autres. Si vous avez à cœur de prier pour quelqu'un, j'aimerais qu'on prendrait juste un moment, un temps de prière, encore tôt. Amen. Un temps de prière, un temps de passer du temps à l'hôtel. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise you, Lord. Alléluia.